Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Voir avec l'âme, voir sans les yeux, mais avec l'imaginaire ou les souvenirs. Comment le vivra-t-elle, elle qui, dans un récit saisissant, devient l'entomologiste de son mal qu'elle épingle comme un papillon funeste sur la page blanche. La journaliste Elisabeth Quint, qui présente chaque soir à 20h05 sur Arte l'excellent 28 minutes, risque de perdre la vue à cause d'un double glaucome. Son journal de bord intitulé « La nuit se lève » et publié chez Grasset, exorcise donc le possible voyage au bout de la nuit que lui annoncent les médecins.
Europe 1.
Bonjour Elisabeth Quint.
Bonjour Isabelle.
Elisabeth Quint, vous faites un métier très singulier, parce que tous les soirs sur un plateau de télé, vous semblez regarder des gens que vous ne voyez pas, les téléspectateurs, alors que vous regardent et vous voient. Donc ce jeu de dupe, c'est la magie de la télé. Et comme les caméras sont des loupes, eh bien, votre regard n'échappe à personne. Il y a une ironie terrible là-dedans.
Il y a une sorte... Oui, vous avez raison, c'est un jeu de dupes. Il y a une sorte d'illusion, c'est la force de l'illusion de la télévision qui crée l'illusion de la proximité et de l'interpellation. Les gens ont l'impression qu'on s'adresse à eux. Et c'est ce qui fait que je croise des gens dans la rue qui me disent « Ah ben bien sûr, vous ne me voyez pas !» Et non, je leur dis « Mais si, je vous vois. Je vous vois tous les soirs. » Ça les fait beaucoup rire. Voilà, c'est cette espèce de mystification qui est le cœur même de ce processus technique de la télévision.
Alors, comment expliquer un aveugle de naissance, et là je reviens au sujet de votre livre, comment expliquer à un aveugle de naissance, sans provoquer bien sûr sa colère, que la terreur de perdre la vue est peut-être plus grande que celle de perdre la vie?
Mais je suis sûre qu'un aveugle de naissance, s'il ne le comprend pas, en tout cas peut l'entendre avec la bienveillance et l'empathie qui caractérisent... un individu qui a été confronté alors à ce qui n'est pas une perte pour lui, mais c'est quand même une perte. Si vous êtes aveugle de naissance, vous savez que normalement, l'on naît avec 5 sens. Donc un aveugle de naissance naît avec d'autres sens.
Mais il s'est accommodé du manque.
Il s'est accommodé, il a compensé.
Alors, la maladie est devant et dans vos yeux, Elisabeth Quint, écrivez-vous. C'est quoi un double glaucome?
Ah, c'est quoi cette maladie?
Ouais.
C'est une maladie que l'on appelle neuropathie, donc dégénérescence du nerf optique. Vous avez dans chaque œil un nerf optique qui fait bien son boulot, sauf lorsque votre œil a trop de pression. La pression dans l'œil détruit le nerf optique. Ce qui favorise la pression dans l'œil, c'est un liquide qui est dans tous les yeux des humains et qui est censé s'écouler de l'œil très naturellement, percoler, comme me l'a dit gentiment une ophtalmologiste. Si le liquide ne peut plus s'écouler, eh bien, c'est très facile à comprendre. L'œil s'engorge à cause de ce liquide et la pression monte et ça appuie, enfin ça détruit les cellules du nerf optique.
Et l'obscurité se fait. Mais alors, la chirurgie existe.
Mais
seulement,
elle est
très dangereuse, c'est ça?
Il faut être précis, elle est comme tous les actes chirurgicaux, ça comporte un risque. Alors la chirurgie dans l'œil est peut-être, selon l'état de l'œil, selon l'état de l'avancement de la maladie, est plus ou moins risquée. Il y a le risque objectif de la chirurgie et puis il y a ce que l'on met soi dans cette notion d'un scalpel, de quelque chose qui vient dans votre œil et qui réveille des terreurs absolument archaïques.
La pire intrusion.
La pire intrusion, le pire risque, voilà, les ténèbres, voilà. Donc la chirurgie est bien sûr une option, mais vous savez, il y a 1 million de gens qui ont un glaucome en France, soit à un œil, soit à 2 yeux, et qui se font traiter avec des collyres, avec toutes sortes de soins, laser, chirurgie, collyre, et ça va plus ou moins bien, mais on peut faire, on peut ralentir, ou juguler, ou contrôler, et parfois pas, mais on peut souvent le faire.
Elisabeth Quint, quand on est une femme scrutée sur son apparence, parce que tous les soirs à la télé, eh bien insidieusement, même si elle semble frivole, il y a une première question qui s'impose. Une aveugle, et c'est vous qui choisissez ce terme, hein, et non pas malvoyante, une aveugle donc ne vérifie pas son apparence toute seule. Alors comment peut-on être sûr de soi sans se voir? Dans ce monde si narcissique, est-ce la libération ultime que perdre totalement le contrôle de l'image de soi?
Je n'en ai pas la moindre idée, je m'interroge. J'ai lu, et puis j'ai écrit, et puis c'est une somme de réflexions. Et parmi ces réflexions, je me suis dit, évidemment, on est un homme, on est une femme, on perd la vue, on voit moins bien, on devient malvoyant ou aveugle. On prend soin de soi tout de même. Et si on est une femme, peut-être encore plus.
Théoriquement, oui.
Comment font les femmes? J'ai écrit ça parce que j'ai rencontré des femmes aveugles extraordinairement soignées. Et je me disais, pimpante même, ce mot est un peu suranné, j'aime bien ce mot.
Mais alors qui regarde pour elle?
Eh bien, je me disais, comment font-elles, comment se mettent-elles le rouge à lèvres, puisqu'elles n'ont plus de reflet, elles n'ont pas le recours du reflet. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un truchement? Est-ce qu'il y a un médiateur? La personne aimée, un ami qui dit oui, là, ce matin, ça va. Sur quelles ressources intérieures comptent-elles, ces femmes qui voient mal ou qui ne voient plus, pour prendre soin d'elles? Je n'ai aucune réponse, je m'interroge.
Alors, quand on sent et on sait qu'on va perdre la vue, est-ce qu'on se lance dans une course de vitesse pour élaborer un album du vision intérieur?
Pas
est-ce qu'on
tout.
Surcharge sa mémoire, sachant que finalement, on ne verra plus que par la mémoire?
Pas non. du tout. D'abord, je ne sais pas si je vais perdre la vue. Je fais tout pour ne pas la perdre.
C'est parce que vous posez la question dans
Bien
ce récit
sûr.
Que je me permets de reprendre derrière vous.
Et vous avez raison. Il y aurait sans doute peut-être une sorte de tentation complètement utopique et illusoire qui consisterait à se dire je vais accumuler une bibliothèque d'images mentales merveilleuses, les images qui m'éblouissent, les images qui m'émeuvent, les images indispensables, le visage de l'aimé, le visage de l'enfant, tel tableau, telle œuvre, tel paysage. C'est affreux. Enfin, je pense que vous vous auto-poignardez en faisant ça. C'est impossible. Je pense que c'est une démarche qui consiste effectivement, vous avez raison, à s'alourdir. C'est pas ça la question. La question, c'est comment continuer à avancer en s'allégeant et en s'ouvrant aux autres. C'est tout.
Et en même temps, l'imaginaire se démultiplie. Quand vous allez par exemple à l'opéra, désormais, comme pour devancer la cruauté du destin, bah, pendant l'intégralité de la représentation, vous gardez les yeux clos.
C'est une expérience.
Mais l'opéra s'y prête, la musique donne à voir, j'ai envie de dire ça. Et dans la rue, c'est différent.
L'opéra, c'est une expérience, enfin, c'est de temps en temps, oui, fermer les yeux dans une situation très particulière, l'opéra, évidemment, pourquoi pas. C'est un peu bête, vous savez, depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis que j'ai cette maladie, de temps en temps, je me surprends à faire, effectivement, ces expériences, comme si j'étais mon propre laboratoire, de l'angoisse ou de la confiance. Comment fait-on quand on voit moins? Comment peut-on faire confiance? À qui fait-on confiance? Et qu'est-ce que la confiance?
À qui fait-on confiance?
Quand on ne voit plus. Parce que finalement, vous rencontrez quelqu'un, vous vous accrochez à un regard, et c'est par là que ça passe. Alors quand ça ne peut plus se passer par le regard, comment fait-on?
Élisabeth Quint, vous écrivez, tous les malades connaissent le refrain seriné par les bien portants, la maladie vous grandit et vous fortifie, elle permet d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience. Donc d'après les bien portants, qu'importe si on meurt éclairé. Il faut cesser de croire que la maladie peut donner un sens à l'existence.
Mais je ne suis pas sûre, enfin, j'ai envie de vous envoyer la question. Vous pensez que la maladie donne un sens à l'existence?
Il y a d'autres manières d'y parvenir.
Il y a d'autres manières d'y parvenir. La maladie permet de réfléchir, d'approfondir. La maladie engage ou déclenche une réflexion, sans aucun doute. Mais cette passion, cette espèce de fétichisation du dolorisme, oui, ce qui ne te tue pas te rend
plus
fort.
La phrase de Nietzsche.
La maladie est une façon de prendre conscience de la condition humaine, etc. Oui, mais pas seulement. La maladie est une saloperie. La maladie est une saloperie qui vous abîme, qui vous détruit, qui vous érode, qui vous entame, avant tout.
On fait une très courte pause et on retrouve tout de suite Élisabeth Quint.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Elle vient de publier un roman où elle évoque le double glaucome qui menace de la rendre aveugle. Élisabeth Quint se raconte au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
La vue devant soi, c'est fini. Écrit-elle, bravache. Élisabeth Quint publie chez Grasset « La nuit se lève ». Et elle est mon invitée cet après-midi. Alors, chère Élisabeth, vous avez déclaré il y a 3 semaines au Journal du Dimanche « Je pense que mes problèmes de vue ont fait de moi une meilleure intervieweuse ».
Je me moquais de moi-même.
Oui, j'imagine bien, c'est au 17e degré. Mais quand même, ça tendrait à nous faire croire que moins on y voit, moins l'approche de l'autre est fondée sur l'immédiat, c'est ça?
Non, mais donc oublions cette histoire de corporatisme et concentrons-nous sur cette notion de vibration, d'invisible, de perception de l'autre qui ne se fonde pas seulement sur le regard, encore heureux, encore que c'est par le regard qu'on tombe amoureux peut-être, comme ça, de regard qui se noue, mais... il me semble, et c'est assez rassurant, déjà pour tous ceux qui voient mal ou qui ne voient plus, il me semble qu'on comprend quelqu'un, on embrasse quelqu'un, on appréhende quelqu'un ou une réalité ou la réalité de quelqu'un ou de quelque chose avec d'autres sens, avec d'autres capteurs que le regard simple.
Alors, vous dites le Graal des chercheurs, bien sûr, c'est la reconstitution du nerf optique endommagé. Mais vous ignorez si de votre vivant, ils y parviendront. Alors, reste La pensée magique, nous y voilà, en plus d'écolière bien sûr. Et vous êtes allé voir un chaman, Elisabeth Quint, vous dont l'intelligence est si incisive, j'ai envie de préciser.
Mais quel rapport ?
Mais parce que, comme ça, bêtement, on imagine que s'adonner à la pensée magique, ce serait presque enfantin. Pourquoi cet espoir ?
Obscurantiste, vous voulez dire, même obscurantiste.
Je ne vais pas jusque-là, mais pourquoi cet espoir vers l'irrationnel, vers les forces invisibles ?
Enfin, écoutez, alors là, enfin, tous les gens qui prient, tous les gens qui ont la foi, tous les gens qui croient...
Ils sont persuadés que Dieu existe.
Alors écoutez, est-ce que ce n'est pas aussi enfantin ou obscurantiste ? La magie, vous appelez ça la pensée magique ? Oui, peut-être la pensée magique, mais enfin, il n'y a pas que la nécessité dans la vie. Il n'y a pas que la nécessité biologique et organique. Il n'y a pas qu'une pierre est une pierre. Il y a aussi, il y a aussi des esprits, il y a l'invisible, il y a les vibrations, il y a tout ce qui nous dépasse. Il y a tous les plis, toutes les facettes de la réalité, l'arrière de la réalité, enfin, toutes les dimensions qui nous dépassent, mais qui sont là, qui sont présentes. Donc, ça n'est pas faire offense ou calomnier l'esprit scientifique et rationnel d'un individu qui vaut au XXIe siècle que de dire « Oui, je me suis intéressée à des gens qui eux-mêmes s'intéressent à l'invisible.
» Alors, Elisabeth Quint, c'est le très sérieux spécialiste de l'ethnopsychiatrie Toby Nathan qui le premier vous a dit que vous deviez faire une transaction avec l'invisible.
Je devais contracter avec l'invisible,
car selon lui, de tout temps, la relation avec l'invisible a été justement de l'ordre de la tractation. On pense aux offrandes et puis aux sacrifices aux dieux dans les sociétés primaires, n'est-ce pas ? On presque abusé, mais aussi dans nos religions. Seulement, avec qui on négocie quand il faut contracter avec l'invisible ?
Quelle adresse l'invisible ?
Est-ce que la force suprême, c'est soi ?
Aussi. Mais aussi, mais le simple fait d'en parler avec Toby Nathan a été comme un baume. Toby Nathan n'est pas un illuminé. Toby Nathan est un ethnopsychiatre qui considère juste qu'il n'y a pas que, en l'occurrence, la grille occidentale et psychanalytique qui permet de régler des problèmes liés aux hantises, aux névroses, enfin, et au mal-être. Bon, mais moi, je ne suis pas allée le voir pour lui dire « ça ne va pas, j'ai une névrose, j'ai un problème à régler ». Je suis allée le voir pour lui dire « j'ai un problème de vue, objectif, enfin organique, mais j'aimerais parler avec vous, d'une part, de la pression, de la manière dont la pression à l'intérieur de l'œil peut s'envisager. Il y a d'autres pressions, d'autres... Voilà, bon, j'ai voulu parler de ça avec lui. Et puis surtout, je lui ai dit, parlons de la vision dans les autres cultures, l'œil, l'importance de l'œil dans la mythologie, dans les cultures béninoises, ailleurs. Comment font les gens confrontés à des maux oculaires ? Qu'est-ce que c'est l'œil ? Qu'est-ce que c'est le mauvais œil, par exemple ?
Et que vous a-t-il répondu ?
Eh bien, on en a parlé, on a exploré, il m'a raconté des choses, c'est un merveilleux... C'est un griot, hein, vous savez, c'est quelqu'un qui raconte
bien. C'est un griot occidental.
Et qui donne des outils, qui donne comme ça du grain à moudre pour un peu avancer dans la réflexion. Et effectivement,
mais il a remis votre mental à vous au cœur justement de ces questionnements.
Il m'a permis d'avancer dans ces questionnements et de me dire que l'allopathie, c'est-à-dire la médecine, c'est indispensable, c'est la base de tout. Mais parallèlement, à côté, en même temps, il est intéressant de prendre soin de soi pour peut-être prendre mieux soin des autres, mais de prendre soin de soi en recourant à d'autres énergies, à d'autres.
C'est pour ça, par exemple,
puissances.
Que vous êtes allé vous recueillir à la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, vous dont le cerveau est si structuré qu'on pense que vous ne pouvez pas une seconde vous attarder sur l'existence éventuelle de miracles.
Oui, écoutez,
j'ai
fait une expérience.
Ce fut un échec. Vous l'avez fait deux fois, Elisabeth Quint.
Oui, deux fois, parce que il me semblait qu'il devait y avoir un vortex de d'énergie, de puissance, de croyance, d'aspiration dans ce lieu. Et il y a forcément dans ces lieux, il y a quelque chose en plus. Il y a une dimension supérieure, supplémentaire. Je dis pas supérieure au sens d'un jugement moral, mais il y a une énergie, il y a un amoncellement d'énergie, de croyance.
Si elle ne guérit pas, elle est caressante, en tout cas. Cette énergie, ce baume est caressant.
Absolument. Je suis allée aussi en Italie, il y a à Venise une église dans laquelle reposent les reliques d'une sainte du temps passé qui s'appelle Sainte Lucie Lucia en italien. C'est la sainte des oculistes et des électriciens, la sainte patronne. Mais oui, bien sûr, Lucie, parce que la lumière. Luxe,
bien sûr, luxe.
Donc j'y suis allée, j'étais dans le coin, je suis passée. J'étais pas fière et en même temps j'espérais quelque chose et rien ne s'est produit.
Donc, en vous écoutant, je me dis que, effectivement, il y a la peur de la cécité qui, j'utilise le conditionnel, avancerait, Mais en ce moment, vous tentez de regarder en face l'invisible.
Mais évidemment, et de me concentrer sur à la fois la beauté des choses et la beauté du monde, et puis aussi d'essayer de creuser un peu ces questions d'invisible. Voilà.
Europe 1.
J'ai 1000 questions, justement, à lui poser, à Elisabeth Quint. On s'interrompt un bref instant, on la retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
15h21, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Une heure de confidence en compagnie de son invité.
Elle fait de ses peurs et ses questionnements une prose magnifique. Le grand manteau noir de la cécité se posera-t-il sur les épaules d'Elisabeth Quint à cause d'un double glaucome? Son livre paraît chez Grasset. Il a pour titre « La nuit se lève ». Alors, Elisabeth Quint, il y a plusieurs moments fondateurs dans l'existence de chacun, mais quel fut pour vous, au cours de vos 20 premières années, peut-être le plus mystérieux, le plus radical et le plus signifiant de ces moments fondateurs?
La lecture.
C'est vrai?
Non,
le premier bouquin?
C'est bête, hein?
La littérature,
ah, oui.
La compagne favorite, permanente.
Dans l'amitié des livres, grandir dans l'amitié. C'est banal, hein, c'est très banal.
Pas tant que ça.
Ah bon, vous trouvez? Si, c'est banal pour ma génération. Nous sommes des très vieilles personnes. mais une génération hantée numérique. Vous savez, moi je suis née au XXe siècle, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Non, le moment fondateur... C'est intéressant, les questions les plus simples sont les plus... Vous ouvrent des abîmes, je me jette dans cet abîme et je vous en rapporte, c'est ça, une poignée de livres. Mais au-delà de cette poignée de livres, ça serait la rencontre avec la littérature qui m'a sauvé la vie, d'une certaine façon. Parce que la vie était l'adolescence, enfin la fin de l'enfance, l'adolescence était compliquée, pour des raisons de mal-être, enfin voilà, c'est compliqué de grandir.
Mais alors, puisque vous me répondez...
Dans un panorama qui était comme ça un peu grisou, grisâtre, oui, alors voilà, il y a eu cet éblouissement de la rencontre avec l'autre à travers les livres.
Alors, puisque vous me répondez littérature, je voudrais savoir d'où vous vient cette langue parlée, riche, ciselée, presque
livres.
Comme une langue écrite. Oui,
mais des autres.
On peut, certains lisent énormément, et n'ont pas pour autant une prose aussi gourmande, aussi sculptée. Mais vos parents étaient des littéraires ou pas du tout?
Mon père, oui, ma mère, non. Ma mère, et je l'adore, et Dieu sait que je l'aime, et je lui ai pardonné, et elle m'a pardonné, nous avons fait la paix. C'est une longue entreprise que de faire la paix avec son parent. Mais ma mère était totalement acculturée, ça ne l'intéressait pas. Ah, pas du tout, je n'ai jamais ouvert un livre. Mon père, oui.
Vous n'êtes jamais parvenu à la convaincre de
non,
le faire?
Non, non, mais je, c'était inutile. La bête résistait. Non, mon père qui n'est plus là, mon père était un homme de livres et de musique, mon père aimait beaucoup les livres et la musique, et mon père adorait les livres d'histoire, se nourrissait de biographies, de livres historiques et de romans noirs. Mon père avait une passion frénétique et dévorante pour les romans noirs. Simenon, Chandler, etc. Donc mon père adorait ça et je pense que... Eh bien moi, le roman noir aussi beaucoup, le roman d'espionnage évidemment, et moi par mimétisme, parce que quand j'étais petite je voulais être mon père, tout simplement, c'est des choses, c'est bête, hein, mais c'est comme ça.
Fille unique
de ce lit-là. C'est joli, c'est en deux mots. Ça n'est pas floral, c'est en deux mots. Donc de ce lit-là. Eh bien oui, je voulais être mon père. Donc je faisais tout comme lui. Et j'ai dû commencer à lire pour être comme lui. Pour m'engouffrer en lui, vous voyez, et lui ressembler.
Alors, vous avez fait des études de lettres, Elisabeth Quint, mais les études de lettres mènent assez rarement à la radio. J'ai pas dit ça. Pourquoi cette première exposition radiophonique?
Alors là, c'est pas une exposition, c'est une sous-exposition, la radio. Dans mon cas, c'était une planque absolue.
C'est-à-dire
que j'ai fait de la radio, j'ai démarré parce qu'il fallait bien travailler. Je vais vous avouer un truc, j'ai démarré, je sais pas, il y a 30 ans, la radio, sur une sorte de mensonge totalement éhonté où j'ai vu, c'est marrant quoi, j'ai vu une petite annonce dans Libération. On cherche quelqu'un pour faire de la radio qui ait une expérience. J'ai appelé, j'avais jamais fait de radio de ma vie, je sais même pas ce que c'était. Je suis tombée sur un type mou et qui a dû lever un œil vaguement intéressé. Je lui dis oui, j'ai une expérience, mais il faut que je vous en parle.
Bon, déjà, vous avez la voix.
Venez. Je suis arrivée dans les locaux d'une radio qui était Radio Libération, la radio libre de Libération le quotidien, rue Pierre Picard dans le 18e arrondissement. Le mec a levé un œil torve et un peu vitreux, m'a dit oui, ok, d'accord, bon, vous commencez la semaine prochaine. Bon, il cherchait quelqu'un qui était payé rien et qui allait appuyer sur un bouton et raconter des trucs entre deux disques. J'ai commencé comme ça, en mentant.
Bon, mais bien avant le premier roman, Elisabeth Quin, la radio, donc, pas oui, celle-là, mais ensuite, radio. Parce que vous avez grandi à la radio, oui, et bien oui. Cette radio, elle a tissé le lien avec le cinéma, dont vous êtes devenue une critique aussi estimée que redoutée, sur Paris Première, étant donné que la plupart des chaînes, aujourd'hui, produisent des films, n'est-ce pas ? Donc, sur Paris Première, c'était plus confortable.
Ils n'avaient pas un rond, ils produisaient rien, donc on pouvait avoir une liberté éditoriale totale.
Donc, en fait, vous ne pouviez être critique de cinéma à la télé que
sur une chaîne pauvre.
Voilà.
C'est ça. Que sur une chaîne fauchée. C'est-à-dire, j'aurais pas pu faire ce métier sur Canal+, à l'époque, dans les années 90, la grande époque.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, à l'époque où donc j'allais, comme cette transhumance annuelle, charriait des milliers de journalistes, j'allais au Festival de Cannes tous les ans pour travailler, voir des films et les relater et en parler. Et bon, je croisais Alain de Greffe régulièrement, qui voyait un tout petit peu ce que je faisais sur Paris Première, qui trouvait ça pas trop mal, mais qui me disait, il faut rester là, parce que moi, j'aimerais bien que tu viennes sur Canal, mais c'est pas possible. La liberté, là, c'est un oxymore. Liberté éditoriale et Canal, pour parler de cinéma, ça marche pas ensemble.
Voilà. Alors, Elisabeth Quin, de quoi vous a libéré, je dis bien libéré, hein, la parution de votre premier roman, La peau dure, chez Grasset, en 2002 ?
De rien. Je pourrais vous dire les quelques créances qui traînaient, mais non.
Pourquoi écrit-on un premier roman ? Vous venez de me répondre, pour effacer quelques créances qui traînaient
là,
du genre.
Je plaisante. M'a libéré de rien. Ce premier roman est arrivé comme un cadeau. C'est un éditeur que j'ai croisé par hasard parce que j'avais lu un de ses livres et puis je sais pas le hasard, les hasards de la vie. Enfin la vie, les signes, les choses comme ça. Vous savez les carrefours, les correspondances. Et donc un éditeur m'a dit, vous n'auriez pas un livre dans le placard, en gros quoi.
Donc il avait deviner l'écrivain en vous, vous saviez que vous étiez doué pour l'écriture.
Pas du tout. Je savais que j'étais doué pour lire. Mais vous savez, on peut être un bon lecteur et un mauvais écrivain. Je ne me considère pas, Isabelle, je ne me prends pas pour un écrivain. J'ai écrit des livres.
Aujourd'hui, encore ?
Non, pas du tout. J'ai trop de respect pour la littérature. Non. J'ai écrit quelques livres. Le plus important pour moi étant celui-ci, La nuit se lève, car il est écrit, pas seulement pour moi, il est écrit en compagnonnage avec les gens qui ont la même maladie et ou les autres qui s'intéressent à ce que c'est que de supporter la perte, tout simplement. La perte liée à la perte d'un sens, entre autres. Il n'y a pas que cette perte-là dans la vie. Mais je ne me prends pas pour un écrivain. J'ai écrit des livres. Nuance.
Europe 1. Elle nous livre une part importante de sa vie dans son nouveau livre, Les journalistes, et se dévoile sur Europe 1. L'entretien d'Isabelle Morizet avec son invité se poursuit jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Quel titre ! Quelle plume ! Elisabeth Quin fait paraître chez Grasset un récit magnifique et bouleversant sur le combat qu'elle mène contre une cécité annoncée. Et Elisabeth Quin est cet après-midi mon invitée. Chère Elisabeth, alors se reconnaître en croisant les regards, c'est à la source de bien des histoires d'amour. C'est ainsi qu'est née la rencontre avec votre fille adoptée au Cambodge. Vous écrivez dans La nuit se lève, aurais-je pu adopter ma fille si nos regards ne s'étaient croisés dans la touffeur d'un orphelinat rural cambodgien un matin de mai 2003. Aspirée par son regard, je suis allée vers ce bébé. Ona est née dans mes yeux.
C'est vrai, c'est la vérité.
Donc je pense à ce film, Le choix de Sophie. En fait, rien n'est plus atroce qu'avoir à choisir quand ça impacte une vie, un destin. Or, c'est ce que vous avez été amenée à faire dans cet orphelinat après qu'une nourrice ait déposé dans vos bras, Elisabeth Quin, une petite fille, vous dites, enrubannée comme une offrande, mais une petite fille totalement indifférente à vos regards, à vos gestes, à vous. Il faut beaucoup de courage, de détermination, il faut un goût certain de la complication et pas avoir peur de paraître peut-être indécente pour... dire non, ce ne sera pas cet enfant-là que je ramènerai, mais
quand vous
un
me rappelez
autre.
Ça, ça me donne la chair de poule. Mais oui, ça s'est passé comme ça. Une adoption il y a plus de 15 ans dans un orphelinat où effectivement on m'avait attribué comme ça se faisait. Maintenant l'adoption a beaucoup évolué, c'est beaucoup complexifié, vous passez par des associations, ça n'est pas l'objet de notre propos. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé ce matin-là très tôt. On m'a littéralement collé dans les bras un enfant qui m'était attribué, comme on me l'avait dit, de manière administrative, dans l'orphelinat. Et cet enfant s'est mis à hurler. C'était une petite fille, un petit bébé, qui a commencé littéralement à hurler. Et dans ces hurlements, j'ai senti le rejet de ma personne. Et j'ai eu une sorte de, je ne sais pas appeler ça une fulgurance ou une évidence. Je me suis dit, je ne peux pas nouer sa vie à la mienne si cet enfant, à la première seconde où elle se trouve dans mes bras, hurle.
Et en même temps, il n'est pas interdit de s'interroger sur le fait que tout cela semble cruel, refuser un enfant qu'on vous tend.
Ça ne s'est pas posé dans ces termes-là. Il n'était pas question de refus, il était question de protéger un enfant qui vraisemblablement, au contact de mes bras, ne voulait pas être tout simplement pris par la personne que j'étais. Donc je l'ai, il y avait une nourrice à côté, je lui ai remis dans les bras, et au moment où j'ai fait ce geste, j'ai croisé le regard d'un autre bébé. Le regard noir d'un autre bébé, je ne savais même pas si c'était une fille ou un garçon, c'était un bébé qui me regardait, comme vous me regardez à l'instant, qui me fixait avec la même intensité. Vous n'avez pas les yeux noirs, elle avait les yeux noirs, ce bébé avait les yeux noirs. Et j'ai été une force.
Vous avez été aspirée.
Plus qu'aspirée, parce que je me suis déplacée vers ce bébé pour l'attraper. Je commettais peut-être un geste qui n'était pas bienvenu, mais je ne pouvais pas faire autrement.
Et comment a-t-elle réagi, cette petite fille, quand
cette
vous l'avez serrée contre
m'a regardée, je l'ai attrapée contre moi. Cette petite fille n'a pas émis un son. Je ne savais même pas que c'était une petite fille. Et j'ai dit au directeur de l'orphelinat qui était à côté, c'est l'enfant que j'adopterai. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ça a été un peu plus compliqué, encore une fois, administrativement. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé ce matin-là. Et encore une fois, j'ai la chair de poule quand je vous le re-raconte.
Elisabeth Quin, cette volonté farouche d'adopter, elle n'était due ni à une stérilité, ni à un âge tardif, ni à une quelconque conviction idéologique, ni à un dégoût de la grossesse d'ailleurs. Elle était due à quoi ?
Quoique, ne voulais pas me reproduire. Et je considérais, en parallèle à cette volonté farouche de ne pas me reproduire, qu'il y avait quand même pas mal d'enfants.
Elle est terrible, cette phrase.
Pourquoi ?
Il y a du désamour pour soi.
Peut-être.
Dans cette phrase.
Vous n'avez pas tort. Mais vous n'avez pas tort. Il y a sans doute peut-être un peu de manque de... Non, pas manque de considération pour soi, parce que je me soigne. Je me soigne physiquement, et puis je me soigne puisque je suis malade. Mais oui, peut-être que je ne voulais pas me reproduire parce que je ne voulais pas... je n'avais pas envie de me chercher. Je ne voulais pas... Je voulais être terminale. Voilà, c'était comme ça.
Je voulais être
terminale.
Oui,
je voulais être terminale. Et c'est pas grave. Et ça n'est pas grave d'être terminale et de ne pas avoir d'enfant. Néanmoins, l'adoption était quelque chose qui me semblait nécessaire, important, donner une famille à un enfant qui n'en a pas ou qui a été abandonné.
Mais alors pourquoi avoir choisi l'Asie ? Pourquoi pas l'Europe ou l'Afrique ?
Parce que vous savez, quand vous entamez la longue démarche, c'est un long processus que d'adopter. En France, il n'y a pas d'enfants. Je me suis renseignée quand j'ai démarré. On m'a dit, vous savez, en France, vous ne pourrez pas adopter. Vous ne pourrez adopter que des enfants qui sont quand même plutôt souvent des grands enfants ou des adolescents. Mmh. Et je voulais adopter un enfant plus petit. Un enfant, si possible, avant le langage. Un enfant, voilà, un bébé. Et tout de suite, on m'a dit, ce sera l'adoption internationale. Et l'adoption internationale, il y a énormément de pays où c'est compliqué, selon, ça change d'ailleurs, les lois, les règles changent selon les pays, et je me suis tournée vers l'Asie parce que un tropisme, un amour pour l'Asie, un tropisme,
j'y suis beaucoup allée. Vous qui avez appris à parler le chinois.
Et puis j'avais fait des études de chinois, voilà, donc il y avait quelque chose comme ça qui me portait vers le sud-est asiatique, oui absolument.
Mais alors vous êtes devenue mère à l'instant où vous avez serré Oona contre vous,
bien,
il vous a fallu du temps pour vous apprivoiser
vous
toutes les deux.
Vous connaissez la formule, on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien, on ne
Merci
naît pas
Simone.
Forcément mère, on le devient.
Mais jaillit comment l'instinct maternel ?
J'en vous sais avez... rien, je ne sais pas.
Vous l'avez entendu venir, s'emparer de vous, s'installer en vous ?
Voilà, c'est ça, une sorte de choses progressives qui s'emparent de vous. Mais c'est ma fille, ce n'est pas ma fille biologique, mais c'est ma fille. Indubitablement et entièrement et absolument, c'est ma fille. Et pourtant, c'est une enfant qui a des parents biologiques que je ne connais pas, que l'on ne connaît pas. Elle a été abandonnée sur les papiers administratifs. J'ai l'impression que je marche à pas de loup parce que j'ai l'impression que c'est tellement intime. Les parents sont inconnus. Vous savez, le Cambodge, c'est un pays qui a été très martyrisé par une guerre civile il y a 40 ans. Et c'est compliqué, l'état civil. Alors, ça l'était encore il y a 15 ans, 16 ans. Voilà. Et donc, cette petite fille est devenue une grande fille qui a 16 ans et demi, bientôt 17 ans, et qui doit aussi se confronter à cette question qui est douloureuse et délicate. Et qui engage son existence, qui est cette question d'avoir été abandonnée, enfant. Voilà. C'est très délicat.
J'imagine qu'il y a une autre question douloureuse que se pose Oona, qui, justement, va avoir bientôt 17 ans. A-t-elle lu votre nouveau livre, La nuit se lève, qui compte donc ce combat contre la cécité qui arrive ?
Non, elle n'arrive pas. J'espère qu'elle n'arrivera pas à la cécité. Je suis obligée, les mots... Vous savez, Oscar Wilde disait « ce qu'on écrit arrive ». Mais ce qu'on dit peut arriver aussi. Je fais tout pour qu'elle n'arrive pas.
Oui.
La cécité. Et quant à Oona, elle a bientôt 17 ans. C'est une ado. Alors, je vais vous dire, elle est géniale. Bon, elle est ravie de l'existence en fait, du livre, mais elle m'a dit « Bon, je veux lire ce qui me concerne. » Voilà, avec ce mélange de bonne humeur, d'insolence, d'égoïsme qui est merveilleux. Elle a lu les deux passages.
Et elle vous a donné sa bénédiction.
Et elle était ravie. Elle était très contente. Elle m'a dit « Tu écriras sur moi un peu plus la prochaine fois. » Voilà, tout ça est adorable. Quoi. 17 ans, l'adolescence, merveilleux.
Merveilleux.
Ouais,
bien vu. Vieux. On s'interrompt un instant. Très court, c'est promis. On retrouve tout de suite Elisabeth K.
Elle raconte sa lente descente vers l'obscurité dans un livre autobiographique. Elisabeth Quint est l'invitée, donc d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Quoi de pire que risquer de perdre la vue, sinon perdre la vie. Elisabeth Quint publie chez Grasset un journal de bord organique, poétique et frondeur, en fait, sur son combat contre la cécité qui, lui prédisent les médecins, pourrait, n'est-ce pas, arriver. Ce livre a pour titre « La nuit se lève », Elisabeth Quint est mon invitée. Chère Elisabeth, quand on est doué pour tout, ce qui est votre cas...
Comme vous y allez.
Non, j'assume, quand on est doué pour tout ce qui est votre cas, on peut se permettre d'arriver à la radio par hasard, comme donc vous nous
par
l'avez
hasard
confié.
Par petite annonce.
Et par petite annonce. Oui. Et à la télé, par accident.
Par hasard.
Voilà. Et ça marche.
Mais c'est vrai, je suis arrivée à la télé par hasard.
Voilà. Et ça marche, surtout quand il s'agit, alors là, on va parler de l'actualité, d'une contre-proposition avec un regard carrément transversal sur notre société et son actu. C'est ce que vous proposez avec votre magazine baptisé 28 minutes et diffusé chaque soir sur Arte dès 20h05. Donc, face à tous les JT. Être intelligent à la télé, ça peut donc marcher.
Ah mais c'est collectif, hein. Attendez, me dites pas être intelligent en me regardant avec vos beaux yeux. C'est une émission, c'est un collectif, 28 minutes. Mais nous sommes nombreux autour de la table. Mais sur le pari de départ, vous avez raison de parler de contre-proposition. Dans un langage télévisuel, ils vous disent contre-programmation. Et c'est vrai que quand l'équipe d'Arte, il y a 7 ans, a voulu humaniser l'antenne. Arte, c'est génial depuis toujours, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à l'antenne. Et ils ont eu une démarche absolument vitale. Pour eux, il fallait qu'il y ait des humains qui parlent, voilà, et qui mettent de la chaleur là-dedans. Et ils se sont dit, pourquoi pas, puisque Arte, de toute façon, c'est différent, c'est une chaîne franco-allemande, les gens n'y comprennent rien, mais en même temps, ils ont un truc en plus. Ils se sont dit, on va inventer un magazine, et pourquoi pas le mettre en face des JT, puisque nous faisons tout pas comme les autres, justement. Donc, contre-proposition jusqu'au bout, ça a démarré comme ça, un regard différent.
Et vous dites d'ailleurs qu'au départ, c'était même pas de la télé. C'était totalement expérimental. C'était de la radio filmée. Ouais.
Enfin, au départ, n'exagérons rien. La première saison, c'est vrai qu'il n'y avait pas de script. Enfin, on faisait une espèce d'émission en freestyle, en roue libre. On ne savait pas la durée. Enfin, bon, bref. Et puis, on s'est quand même professionnalisé très, très vite dès la deuxième saison, à la fin de l'année 2012. Mais c'était un pari génial. Et puis, au-delà de faire un magazine d'actualité avec un débat qui dure 20 minutes, au cours duquel un sujet d'actualité est vraiment approfondi. L'idée aussi qui était courageuse, c'était de dire on va mettre une femme à la tête de cette émission. Parce qu'au début, ils ont vu tous les garçons de Paris. Vous savez, je n'ai aucun égo. Ah ben, je n'ai aucun égo. Moi, je ne suis pas fière. Quand on m'a appelée, on m'a dit bon, on a vu plein d'hommes. Oui, on réfléchit, on state, on s'interroge, mais on s'est dit peut-être quand même une femme. Je dis ben, je vous remercie de me le présenter de manière aussi valorisante pour ma personne. Allons-y. Et puis finalement, ils m'ont gardée.
Et ben voilà. Mais votre exigence, Elisabeth Quint, si loin de la pensée unique, et puis vos choix éditoriaux toujours pointus, il passerait quand même difficilement sur une grande chaîne généraliste.
Je sais pas. Mais Arte est une chaîne généraliste.
Avec le supplément d'âme.
Alors, vous dites une grande chaîne. Bon, c'est une moyenne chaîne. C'est pas une énorme chaîne, mais c'est
une chaîne
généraliste.
Oui, mais vous entendez ce qu'il y a quand je parle de grande chaîne généraliste.
J'entends l'allusion moqueuse et fine et subtile. Écoutez, voilà, apparemment, ça ne peut avoir lieu que là. Et l'émission marche bien, oui, comme quoi les téléspectateurs... Les téléspectateurs, quoique bombardés d'informations, comme tout un chacun, et par les réseaux sociaux, et par les journaux, heureusement, il y a encore des journaux, quand même, en papier, hein, ça tient encore un peu le coup, et par la télé, les chaînes d'info continues, etc., les gens ont tout de même envie, à 7h-ci, 20h-5, d'avoir un regard plus approfondi sur l'actualité. Ou peut-être parce que, justement, l'info n'est devenue qu'un bombardement, il y a nécessité de trouver cet espace où l'on peut approfondir. Ce bombardement nous légitime.
Elisabeth Quint, vous êtes toujours éditorialiste mode à Madame Figaro.
De temps en temps.
De temps en temps, ponctuellement. Bon, vous aviez d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, été nommée par le gouvernement en place chargée de mission pour les industries de haute couture et du prêt-à-porter. Oui. Concrètement, Ça consistait en quoi ?
Ben, ça consistait à essayer de créer une interface en langage non technocratique, à mettre en contact les gens du ministère de l'Industrie, car bizarrement, la haute couture dépend le secteur économique et ce que représentent ces métiers extraordinaires de la haute couture, ça dépend du ministère de l'Industrie. Il fallait juste les mettre les uns en contact avec les autres. J'étais journaliste, je connaissais un petit peu des gens dans ce milieu-là, milieu de la mode et de la haute couture et du prêt-à-porter, et donc on m'a demandé de les mettre en contact.
Et vous avez construit les ponts ?
Attendez, le pont de la rivière Kouai, oui. Non, créer des passerelles, organiser des rencontres entre des gens qui sont précisément des technos, qui sont débordés dans les ministères, mais qui ont besoin d'aller sur le terrain et de rencontrer, de voir les gens, de visiter les ateliers, de rencontrer un plumassier, un brodeur, de voir qui sont ces gens, qui sont ces artisans qui créent des pièces extraordinaires et puis qui sont aussi les présidents, les gens des maisons de prêt-à-porter et de couture.
Alors, comme vous êtes une esthète de la mode, vous me pardonnerez de vous provoquer un petit peu, mais vous qui êtes savante, érudite, vous vous accommodez bien de ces engouements éphémères pour le chiffon, fut-il en mousseline ?
Ah, mais ça dépend si c'est un émerveillement devant une robe ou une veste brodée qui a nécessité 350 heures de broderie et des savoir-faire extraordinaires et des savoir-faire que ne détiennent pas seulement des femmes dont on se dit ce sont des vieilles brodeuses comme ça, mais des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans ou 30 ans et qui se lancent dans des métiers de l'artisanat. Alors écoutez, moi je considère qu'on peut s'émerveiller effectivement devant quelque chose qui n'est pas seulement de la futilité mais qui est de l'excellence.
Donc le style en fait tient tout, en littérature, au cinéma, en peinture et dans la mode.
Il semblerait. L'excellence, le goût de l'excellence et le style, oui bien sûr.
Alors j'ai appris que vous étiez collectionneuse de vanité, Elisabeth Quint.
Un peu moins,
voilà, un petit peu moins
maintenant. Quelques temps,
alors oui. On rappelle que bien sûr ce sont des objets, des bijoux qui sont une représentation allégorique du temps qui passe en mettant toujours en scène un crâne, n'est-ce pas ?
Par exemple. Voilà. Ça a commencé, enfin la peinture, beaucoup la peinture, la peinture
au
hollandaise.
Au XVIe siècle.
Oui, c'est ça, la peinture hollandaise, puis pas que hollandaise. Enfin la vanité est partout, maintenant même Jeff Koons. Non mais c'est vrai.
Non mais attendez, la vanité est partout, même sur des pulls en cachemire brodés de crâne en paillettes, ne citera pas la marque.
Je ne commenterai pas. C'est de la récupération, pourquoi pas, écoutez.
Mais ça signifie quand même qu'en 2019, collectionner des vanités, ça n'a pas le même sens qu'à l'époque où c'était si prisé. On évoquait la peinture hollandaise du 16e.
Dans
ces sociétés qui, finalement, évacuent la notion de mort. C'est curieux, d'ailleurs.
Alors, oui, mais la vanité, c'était une manière de dire « memento mori, souviens-toi que tu vas mourir ». C'était ça, hein ? Alors avec des arrière-plans et des arrière-pensées religieuses extrêmement élaborées. Mais oui, c'est intéressant de se confronter à cette idée-là à travers l'expression artistique, que ce soit la représentation d'une bougie, d'un crâne, d'une tulipe, dont les pétales commencent à tomber. Voilà, c'est une bonne école, c'est un athlétisme intellectuel et métaphysique, c'est pas mal, j'aime bien.
Europe 1. Elle est douée, cette femme, pour l'athlétisme intellectuel, métaphysique. On fait une pause, on retrouve tout de suite Elisabeth Quint.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 chaque week-end de 15h à 16h. Et bien c'est, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Nous sommes avec Isabelle Moïse pour quelques minutes encore.
Elisabeth Quint, qui publie chez Grasset, La Nuit se lève. Et cet après-midi, mon invité, chère Elisabeth, votre esprit mordant de fine mouche savante est devenu légendaire à la télé. Vous buzz, si vous le savez bien. Pourtant, je vous ai entendu un jour avouer, plus le temps passe, plus je lime mes canines.
Oui, c'est vrai.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas pourquoi. Oh, parce que quand j'étais critique de cinéma, il y a longtemps, il y a 15 ans... Peut-être qu'il était intéressant, ou en tout cas il était nécessaire pour que ce soit saillant, d'être un peu piquant, d'être un peu ironique, d'y aller comme ça, avec des saillies, parfois un peu assassines. Et puis d'abord ça fait mal, deuxièmement c'est la frontière est extrêmement ténue, c'est une ligne de crête hein, entre l'humour, l'ironie, le sarcasme et puis le truc gratuit. Et peut-être qu'on prend conscience de ça avec le temps qui avance et qui passe, et qu'on se dit qu'un peu de douceur... Et puis vous savez... la répétition ou la généralisation de quelque chose de l'ordre de ça, du sarcasme, finit par devenir un peu fatigant. Et on aspire à plus d'humanité, de douceur, de gentillesse, de bienveillance, de bonté.
Ah, de bonté.
Ah, ben oui.
Alors, comme l'un des personnages, par exemple, du roman Vie et Destin de Vassili Grossman, vous ne croyez pas au bien, mais vous croyez à la bonté.
Oui, ça c'est une réflexion d'un des personnages qui est sur son chalet, sur son lit, dans un camp au fin fond de la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans ce roman sublime. Et c'est vrai, j'ai toujours... Il s'appelle Ikonnikov, ce personnage, et à un moment donné, c'est sans doute la dernière parole qu'il émette, et qui est « Je ne crois plus au bien, je crois à la bonté ». Je ne crois plus au bien, faisant référence bien sûr au bien universel que voulait imposer à tous les régimes staliniens en l'occurrence. Voilà, ce bien qui vous est imposé et qui devient un bien totalitaire.
Elisabeth Quin, que se passe-t-il lorsque, comme ça vous est arrivé, hein, on commence une analyse qui est interrompue par la mort de son psy?
Ah, une analyse, vous voulez dire une psychanalyse?
Oui.
Ah oui. On est bien démunis, ma bonne dame. On est très très démunis, oui, absolument. Mais ça m'est arrivé. Je suis arrivée un
on
jour...
On cherche un autre psy? Non.
Si, mais ça a été compliqué. J'avais l'impression qu'il fallait le soigner. Et puis quelque chose, ce pacte qui s'est dénoué malgré moi, ce pacte noué avec l'analyste, la violence de ce dénouement prématuré a été telle que quelque chose s'est rompu et je n'ai pas poursuivi.
Voilà. Alors revenons à ce livre, La nuit se lève, publié chez Grasset, qui nous compte donc de façon aussi organique que métaphysique et parfois même moqueuse, j'insiste, n'est-ce pas, votre combat et puis vos peurs face à cette nuit.
Il s'agit pas de se laisser aller.
Voilà, qui pourrait, selon les médecins, arriver à cause d'un double glaucome. Oui, c'est pour ça, conditionnel ou pas. Alors, à l'avant-dernière page de ce livre, vous écrivez, Elisabeth Quin, et c'est vraiment fort, vous écrivez « Quand ce livre sera publié, je me retrouverai prise entre deux termes très inconfortables, si ma vue ne s'est pas dramatiquement dégradée, on me soupçonnera d'imposture. Si je suis devenue malvoyante, eh bien j'incarnerai pleinement mon texte, mais ma vie sera détruite. Y a-t-il une obligation de maladie? Que désires-tu sincèrement, lecteur ?»
Ah bah écoutez, alors c'est pas à moi à répondre, c'est au lecteur.
Certes, mais vous l'avez écrit.
Et oui, je l'ai écrit, mais je ne prends pas de risque. Enfin, on ne prend pas de risque en écrivant.
Vous les imaginez, vos lecteurs? Vous allez souvent vers eux,
alors,
ils viennent à vous.
Je les imagine parce que je les rencontre. Vous savez, quand on publie un livre, enfin, vous savez, on va signer, on vous invite, vous avez la chance. Lorsque l'on a la chance d'être invité par des libraires qui font un travail incroyable d'animation autour de la littérature, pas de mon livre, mais de tous les livres. Et ces libraires vous invitent les samedis ou les vendredis dans leur librairie en province. C'est là où je vais. Et vous rencontrez des tas de gens qui viennent et qui vous attendent. Alors, quelqu'un comme vous, aimable, bienveillant, malicieux, profond, vous pose des questions sur le bouquin, etc. Vous parlez devant 200, 300 personnes. C'est extrêmement émouvant et impressionnant. Et à la fin, les lecteurs viennent vous voir parce qu'ils ont acheté, se sont procuré une copie du livre et ils viennent vous le faire signer. Et ils vous disent des choses. C'est le moment merveilleux où les gens viennent vous dire soit ils sont malades, soit ils ne sont pas malades, mais ils sont intéressés. Soit quelqu'un est malade, ils veulent l'offrir pour faire du bien, pour témoigner, parce qu'ils se rendent compte que le livre est peut-être aussi un peu universel. Et là, je les rencontre, les lecteurs.
Alors, vous consacrez...
Et ils m'offrent des choses. Ils m'offrent des myrtilles, ils m'offrent des lettres.
Oui, parce qu'il faut parler du jus de myrtille, n'est-ce pas?
Ah non, mais c'est merveilleux.
On pensait, la légende, n'est-ce pas, à colporter que les pilotes de la Royal Air Force buvaient du jus de myrtille pour avoir une vision nocturne augmentée.
La nuit.
Voilà. Et puis, et finalement,
fait,
c'est pas...
Alors, évidemment, ça a attiré l'attention de, je crois, l'armée américaine. Ils ont fait des études, apparemment, qui ont duré des années. Et puis, ils auraient... Mais tout ça a été hypothétique et à prendre avec des pincettes. Ils auraient conclu que, la myrtille consommée de manière comme ça, absolument boulimique et frénétique, n'aurait pas d'impact bénéfique sur la vision. Bah, écoutez, bon, est-ce qu'il faut croire l'armée américaine qui
ça
fait
vous
des
a
études?
Pas empêché d'avaler des
mais
forêts de jus de myrtille.
Ça m'empêche pas de continuer à boire mon petit verre de jus de myrtille bio, bien sûr, sans pesticides dans la myrtille le matin, tous les matins, oui, bien sûr, absolument.
Elisabeth Quin, vous consacrez une bonne part de ce récit, votre livre donc « La nuit se lève », aux artistes et aux peintres qui sont devenus aveugles, tels Claude Monet. Claude Monet, dont le supplice les trois dernières années de sa vie fut de tenter de se remémorer ce qu'étaient les couleurs. Alors, rassurez-nous, vous continuez d'acheter des tableaux.
Je croyais que vous allez me dire « vous continuez à peindre ».
Vous continuez d'acheter des tableaux, n'est-ce pas?
Oh, bah, des tableaux, puis alors pas des tableaux de Claude Monet, mon ami.
Non, c'est pas ma question.
Non, je ne pourrais pas. Non, j'achète des dessins, ça et là, comme ça, chez un petit brocanteur ou dans une vente aux enchères, quand j'ai le temps, oui, bien sûr, j'achète des dessins qui me plaisent.
Voilà. Mais ça veut dire que vous savez que vous continuerez de voir.
Mais peut-être que c'est un geste conjuratoire, vous avez parfaitement raison. C'est la vie, c'est l'élan vital qui me pousse vers un dessin comme ça, un tracé qui m'émeut, que je regarde, que je contemple tous les jours quand je me lève. Il est dans ma chambre, je le regarde, je me le remémore déjà. Oui, je l'apprends.
Alors Elisabeth Quin, même si la dernière phrase de votre livre est « À moi les visions intérieures illimitées et ta main gracieuse, François, pour m'aider à traverser si besoin est », vous allez venger Claude Monet, n'est-ce pas ?
J'espère bien.
Dites-le nous,
Claude Monet,
haut et fort.
Mais j'espère bien, Claude Monet qui avait une cataracte, le pauvre vieux, et qui a tellement souffert quand on l'a opéré, mais c'était il y a un siècle, presque, c'était dans les années 20-25, par là. Ah oui, il a été très très malheureux, il s'est vengé. Vous vous rappelez comment s'appelait son médecin ? Le docteur Coutela. On n'a pas idée de s'appeler comme ça quand on manie un bistouri, quelle horreur. J'aimerais bien, j'espère bien que je vais venger Claude Monet, mais la vie, bien sûr.
Elisabeth Quin va venger Claude Monet. La nuit se lève, vient de paraître chez Grasset. Merci infiniment, chère Elisabeth.
Mais merci à vous, c'est redoutable, mais c'était merveilleux.